S'il est vrai qu'un souffle nouveau se prépare, et comme je disais hier, sur une dimension jamais témoignée dans notre histoire, un embrasement sur une échelle jamais vue, il faut nous préparer à ce souffle avec, comme toile de fond, cette parole de Christ. Peut-être douche froide pour la plupart d'entre nous. Car lui-même a dit que lorsqu'il reviendrait, et je suis sûr, ce nouveau souffle précédera certainement le retour de Christ. Christ nous rappelle, par une question angoissante, la réalité. Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et pourtant, on voit se répandre, augmenter, grandir le peuple de Dieu. On le voit se développer dans les pays d'Amérique latine. On le voit résister et tourner en ridicule l'oppression marxiste dans les pays communistes. Car plus la foi est écrasée, plus elle grandit. Et pourtant, ces paroles nous troublent. Comment se fait-il que dans ce renouveau spirituel, ce Saint-Esprit qui se répand, ces dons, ces guérisons, comment se fait-il que la foi disparaît dans tout cela? Ne serait-ce pas dû au fait que si nous ne prenons pas garde, notre foi s'ancre, s'enracine dans l'événement, le miracle, et non plus sur la personne de Christ? Et c'est tellement tentant, ce qui est cher et sans nous, et qui n'héritera pas le royaume de Dieu, dans son contexte présent. Satan au miracle, on court vers ces grandes réunions où le miracle se produit, jusqu'à négliger sa propre assemblée quelquefois. Et ce n'est pas cela qui fait grandir la foi. Semble-t-il même, la foi diminue. Qu'est-ce que la foi alors? Quelle est sa substance? Quel est son centre? Comment vient-elle en nous? Comment est-ce qu'il apparaît? Me suis-je trompé de porte lorsque j'ai cru avoir la foi? Et lorsqu'elle est là réellement, comment grandit-elle? Voilà les questions, chers frères et sœurs, que nous avons à nous poser ce matin, à la lumière de la parole de Dieu. Car je suis persuadé qu'une convention comme la nôtre est strictement dans le plan de Dieu. Car si un souffle va passer, cette fois-ci, il faut en préparer le terrain. Et Dieu ne supportera plus que les miracles, comme on n'en a jamais vu, qui déferleront, soient simplement l'objet de la curiosité du monde, la curiosité du peuple de Dieu, quelquefois malsaine, dirais-je. Il veut que notre foi transcende, aille au-delà de ce que nous verrons, qui nous réjouira, gloire à Dieu. Mais il veut que notre foi s'enracine sur une réalité profonde qui va bien au-delà de tous nos concepts, de tout notre vécu, de tout ce que nous avons ressenti, de tous nos témoignages. Voilà ce que veut le Seigneur. C'est pour cela qu'il veut préparer le terrain à ce nouveau souffle, à l'occasion d'une convention comme cela. C'est pour ça que ce matin, nous revenons sur la foi. Et je vous invite, dès à présent, à esquisser une tentative de réponse à la première question posée, qu'est-ce que la foi? En ouvrant la Bible et en lisant ce verset bien connu. Certains hommes garderont leur Bible fermée car ils le connaissent. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sautons au verset 6, qui est un avertissement de Dieu. si nous pensons réduire la foi à autre chose que ce que c'est. Verset 6. Or, sans la foi, je précise bien, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et voilà où tous les problèmes commencent. Car beaucoup dans le monde croient que Dieu existe. Et ce n'est pas pour cela qu'ils ont la foi. Satan croit que Dieu existe. Il en a peur. Il a été vaincu. Il ne règne que par le mensonge en ce moment. Mais à chaque fois que nous proclamons qu'il est vaincu, que nous dénonçons le mensonge, il se recule. La foi, pour être agréable à Dieu, doit d'abord être cette ferme assurance des choses que l'on espère. Il est bon que nous redescendions dans l'origine du texte qui a donné cette traduction. Le mot « assurance » déjà, bien traduit sur, certainement, est surtout celui qui transporte l'idée de réalité. La foi est une réalité. Une assurance, c'est souvent intellectuel. Oui, je crois que Dieu existe intellectuellement. Oui, je crois que Dieu peut faire des miracles. Je le crois, j'espère surtout. Et souvent, quand je dis je crois qu'il va faire des miracles, c'est parce que c'est mon désir. Souvent, je ne me pose même pas le problème de savoir si dans cette instance précise, c'est la volonté de Dieu. Quelquefois, c'est une volonté complètement différente. Alors, on confond déjà assurance avec ce que je ressens, avec ce que j'ai compris. Mais ce serait la foi de la chair et du sang, parce que sentir, vouloir, désirer, comprendre, c'est quelque chose qui ne demeure pas. Ça disparaît dans la tombe. Le jour où je suis mort, je ne sens plus rien, je ne comprends plus rien, je n'attends plus rien, je ne désire plus rien. C'est fini. Alors est-ce que ma foi, faut-elle qu'elle s'enracine là-dessus? Non. Elle est une ferme réalité. Vous savez, ou vous ne savez pas, je suis plutôt sûr que vous ne savez pas, que dans la science de pointe, une véritable révolution est en train de se faire. Oh, méconnue, paisible, à part les grincements de dents qu'on entend de toutes ces vieilles classes qui résistent, le rationaliste, où on découvre que la réalité, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on comprend, c'est pas ce qu'on démontre. La tombe, c'est pas la réalité. Le temps, l'espace, c'est pas la réalité. La matière, c'est pas la réalité. L'énergie, c'est pas la réalité. Quand on utilise ces mots, nous traduisons ce que nous ressentons au niveau de notre compréhension, de nos instruments, de nos sens, de quelque chose dont la substance nous échappera toujours. Voilà ce que dit la science de cette fin du XXe siècle. La réalité, la Bible nous en avait prévenu, est invisible, impercevable, incompréhensible. Et c'est ça notre foi. À partir du moment où je suis capable de dire « je sens que j'ai la foi », c'est un signal pour nous rappeler que nous n'avons pas la foi. Bien sûr, quand elle va s'ancrer sur la réalité invisible, nous ne sommes pas de bois. Nous avons une chair et un sang. Nous allons réagir à la présence de cette foi. Nous allons ressentir des choses. Mais gare à nous si nous limitons la foi à ce que nous ressentons. Si nous construisons la foi sur ce que nous avons vécu ou ressenti. Car le jour où nous ne ressentons plus rien, où nous ne vivons plus rien, nous sommes perdus. Nous ne savons plus si nous avons la foi ou non. Ferme assurance, réalité, invisible. Comment est-ce que je vais y accéder? Réalité qui sont ces choses que l'on espère. Tout d'abord, espérer, c'est-à-dire attendu. Mais vous n'êtes pas sans être troublé. Moi, j'ai été troublé à la lecture de ce texte avec le mot « chose ». Vous savez, dans le langage français, populaire, truc, machin, chose, c'est des mots vagues. Un texte de cette dimension nous parle de choses. Oh, bien sûr, pour nous, les choses, c'est les miracles de Dieu, c'est la victoire dans telle et telle situation. Mais la Bible va plus loin. Parce qu'il y a un mot extraordinaire pour choses en grec. C'est un mot qui n'a qu'une seule lettre. C'est la lettre alpha, A, le commencement de l'alphabet. Ça veut dire que notre foi Elle est basée sur la réalité de ce qui est le commencement. C'est ça que ça veut dire. Le commencement qui va aboutir à la réalisation de ce que l'on espère. L'alpha qui aboutit à l'oméga. Tiens, ça m'appelle quelque chose, ça. Qui c'est qui a dit qu'il était l'alpha et l'oméga? Voilà, nous y voilà. Voilà la réalité. C'est Christ la réalité de notre foi. C'est pas tellement un événement. Le fait que j'enracine ma foi sur Christ, en fait, que je me la laisse enraciner, car qu'est-ce que l'homme pour pouvoir se construire sa propre foi, malgré tous nos efforts pour nous enraciner en Christ, c'est zéro le résultat. Seul Dieu le fait. Donc, de notre part, il n'y a que cette attente. Cette attente qui nous dit, eh bien, s'il le déclare dans sa parole, ça doit se manifester. Vous allez me dire, mais même pour dire cela, pour nous attendre à ce que ça se manifeste, pour un peu de foi, alors, est-ce un problème sans solution? Une spirale dont on ne sort pas? La foi, je l'ai dit hier, c'est un don, pas dans le sens don spirituel, parce qu'il y a le don de la foi, c'est tout à fait autre chose. Si vous voulez, c'est une augmentation extraordinaire de cette foi de base. La foi, la capacité de foi, la capacité d'avoir foi, est imbriquée dans l'homme dès le départ de notre histoire. Tout homme qui naît, quand je dis homme, je pense à homme mâle et homme femelle, dans ce sens-là, naît avec cette capacité de foi. Même le pire des incroyants a une capacité de foi qui leur a négligée. Seul l'Esprit de Dieu est capable de l'activer, de la rendre active. Nous, par tous nos efforts, je voudrais tellement avoir la foi, j'ai tellement entendu ça dans des conversations privées à la suite de conférences. Mais j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Et je leur dis, gloire à Dieu, vous n'y arrivez pas, parce que vous n'avez pas été fait pour cela. C'est pas à vous d'y arriver. Vous avez une capacité de foi, l'Esprit de Dieu, en son temps, viendra activer cette capacité de foi, et tout part de là. Le alpha, le commencement est là. La réalité de Christ commence à grandir. Non pas à côté, non pas devant, non pas au-dessus, non pas derrière, mais en nous. Christ avec nous, Dieu avec nous, c'est l'Ancien Testament. Christ en nous, ça c'est la Nouvelle Alliance. Tant que Christ demeure à côté, il n'y a qu'un rapport de compréhension vis-à-vis de lui, de le sentir à côté de nous, etc. Mais quand il vit en nous, quand cet alpha, ce commencement a lieu, ça change tout. J'ai beau avoir des circonstances devant moi, j'ai beau passer par des épreuves qui semblent me dire le contraire, j'ai beau entendre des discours qui, d'une façon subtilement, apparemment intelligente, détruisent ce que je croyais jusqu'ici, dans le fond de moi-même, je sais en qui j'ai cru. C'est ça le départ de la foi. Voilà la réalité invisible. Vous ne pouvez pas la cerner, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous la vivez dans cette conviction profonde. Et la Bible continue en disant une démonstration de ces choses qu'on ne voit pas. Reviens sur les choses. Et même second, par pudeur, il a été aussi peut-être gêné par le mot chose, a mis démonstration de celle. Bon, vous avez fait de la grammaire, je n'entre pas dans le détail. Mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas, démonstration peut aussi nous troubler, car nous entendons parler de démonstration au niveau mathématique, au niveau scientifique. À partir du moment où je prévois un phénomène, je dis ça se passera comme ça, et que je mets en route des circonstances qui exactement vont dans le sens de ce que j'ai prédit, j'ai démontré. Mais démonstration, précisément, c'est une mise à l'épreuve. Car à partir du moment où cette réalité entre en nous, ou plutôt que nous entrons dans cette réalité, qui sort d'espace et du temps, elle est grande, notre Dieu ne sera jamais assez grand au niveau de nos paroles, même au niveau de notre vécu. Dieu est bien plus grand que tout ce que nous croyons au point de départ. Et cette réalité, elle nous possède. Nous ne possédons pas la réalité, nous ne possédons pas la vérité, c'est la vérité qui nous possède. Elle est bien plus grande que nous. Et cette possession par la réalité, c'est une source de vie. Car, comme dit la parole, et pour la parole, il n'y a qu'une vie. Il n'y a que la vie éternelle. Notre vie physique, c'est pas la vie pour la parole. Notre vie intellectuelle, c'est pas la vie. Notre vie émotionnelle, c'est pas la vie. C'est simplement une vapeur, un nuage qui passe et qui disparaît. La vie au sens divin ne peut être qu'éternelle. Quand Dieu souffle dans les narines de l'homme un souffle de vie, il confère à l'homme une dimension éternelle. L'âme devient éternelle. C'est pas la vie biologique qui apparaît quand Dieu souffle dans les narines. Elle existait déjà avant. Elle était avec les animaux, la vie biologique. Mais quand Dieu souffle, il donne cette dimension éternelle. Voilà notre véritable réalité à nous. Nous sommes faits pour être éternels. C'est sur ce plan-là que va s'ancrer la foi. Ce sera pas tellement au niveau de ce que nous allons vivre. Ce que nous allons vivre sera la traduction dans notre vie de ce qui se passe déjà dans l'éternité en ce qui nous concerne. C'est tout cela. Voilà où s'ancre la foi. Et alors, elle devient au niveau du vécu une possibilité de le tester, de l'éprouver, de réaliser que ma foi est vraie. Je dis bien éprouver. Vous savez, en français, éprouver et épreuve sont, comme on dit dans votre langue, la même famille. L'épreuve est le moyen d'éprouver la foi. C'est pas quand tout va bien qu'on a la foi. C'est quand tout va mal qu'on montre qu'on a la foi. Et regardez comment nous coulons facilement à pic dès que ça va mal. On crie au Seigneur, on lui dit, Seigneur, retire cette épreuve de moi. Si on pouvait entendre sa voix nous dire, mais mon enfant, cette épreuve, je la permets pour que ta foi grandisse. Car je suis avec toi, je suis en toi. Nous ne formons plus qu'un. Ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Ça ne fait qu'un tout. Alors, crois-tu être détruit par cette épreuve? Mais je suis en toi, c'est impossible. Tu es indestructible. Même si ton corps disparaît, même si l'épreuve, c'est celle du dernier souffle, de la mort. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Un sommeil. Ce corps aussi ressuscitera pour l'éternité. Même la mort, la plus grande épreuve que Satan utilisait comme l'arme suprême, a été étranglée quand Christ est descendu aux enfers. Il en a retiré l'aiguillon. Ce qui fait que même la mort physique, lorsqu'elle est l'épreuve ultime à laquelle nous faisons face, devient le moyen par lequel nous sortons enfin dans la perfection, car Dieu nous appelle à la perfection. Nous appelle, Dieu étant parfait, à être comme lui, donc parfait. Certainement pas sur cette terre. Mais cette terre, c'est le lieu du cheminement vers la perfection. Alors la foi devient cette vérification, cette mise à l'épreuve des choses, des commencements qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, ce serait difficile de vivre dans ce monde que certains qualifient d'éthérique. Oui, on ne voit pas, c'est facile à dire. D'ailleurs, j'ai lu un livre de Markovitch, qui est un professeur de marxisme à l'université de Prague, un des rares marxistes qui a osé regarder face à face la foi chrétienne, et qui a fini dans la conclusion suivante, oui, finalement, votre truc, c'est complètement détaché de ce monde. Vous vivez dans des choses que vous ne pouvez pas voir. Vous vivez dans des choses que vous ne pouvez pas démontrer. Mais la Bible n'a jamais dit cela. Elle nous dit, vivez d'abord dans cette réalité, laissez-vous entraîner par Christ, qui a ouvert le chemin, qui a déchiré le voile, et qui nous engouffre derrière. Vivez dans cette réalité, et vous allez le démontrer sur terre. Sinon, la foi sans les œuvres est morte. Vous allez le vivre. Et ça, il ne l'a pas vu. Mais Dieu nous invite à le vivre. Et la voie royale, celle qui va faire grandir cette foi, sera précisément la voie de l'épreuve. Une épreuve qui traduit la victoire, non pas parce qu'elle disparaît l'épreuve. La victoire, ce n'est pas la disparition de l'épreuve. La victoire, c'est une foi qui émerge, fortifiée, grandie. Ça, c'est la victoire dans l'épreuve. L'épreuve peut rester jusqu'à la fin de nos jours, peut-être. Mais notre foi grandira, accélérée. Ce qui fera dire à Jacques, nous accueillons les épreuves avec joie, parce que c'est le seul moyen par lequel notre foi grandisse. Notre foi ne grandit pas au vu des miracles. Elle s'habitue à voir des choses qui se passent. Et le jour où elles ne se passent pas, on est paniqué. On court vers les réunions où ça se passe. Merci Seigneur pour tous les miracles. Mais Seigneur, donne-moi d'éviter ce piège de m'y enfermer. Sinon, je deviens malade d'une maladie qui s'appelle la miraculite aiguë. Je ne recherche plus que le miracle pour le miracle. Et le monde est ainsi fait que même ceux qui ne croient pas en Dieu, les spiritistes et autres, font des miracles aussi. Voilà dans quel d'où on émerge. Alors, notre foi grandira ainsi. Voilà l'essentiel de la foi. Et, si vous voulez, en tandem avec ce verset, j'aimerais lire ce Hébreux 12:2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est ça la carrière de la construction de notre foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La foi, c'est pas un événement. La foi, je ne crois pas en un événement. Je peux croire que Dieu va peut-être produire ou sûrement produire un miracle, mais je le dis parce que ma foi est centrée sur Christ. Et peut-être qu'à travers une parole de connaissance, au niveau de l'exercice des dons spirituels, ma foi, enfin, me traduit le fait que Dieu va exercer un miracle. Mais ma foi ne se base pas sur le miracle, elle se base sur la personne de Christ par lequel arrivera ce que lui a prévu. Et non pas ce que je veux, moi. Parce que moi, il est crucifié. Moi, il est mort sur la croix. Moi, il a plus droit à la parole. Si moi veux que ceci se passe, la première chose que j'ai à faire, qui est-ce qui parle? Me dire, ma chair et mon sang, tais-toi. Tu es mort avec Christ sur la croix, tu n'as plus droit à la parole. C'est Christ qui parle à travers moi. Je m'attends à ce que Christ a prévu dans telle circonstance. S'il a prévu un miracle, merci Seigneur. S'il n'y a pas de miracle, merci encore Seigneur. Que sa volonté soit faite. Dans ces conditions, notre foi ancrée sur la personne de Christ devient enfin cette réalité. La personne de Christ, les regards fixés sur Jésus. Ah, comme on voudrait revoir Jésus sur terre. On a l'impression que notre foi grandirait. Mais jamais de la vie. On finirait par le crucifier, vous savez. Ça loupe pas, hein. Tel qu'on est parti, quand je dis « on », c'est je prends ce qu'on appelle la grande famille chrétienne dans le monde entier. Je suis sûr que la docte assemblée que j'ai ici ne ressortirait jamais à cet extrême absolument ridicule. Vous êtes des gens très bien, je le reconnais, mais il y en a qui le recrucifieraient et qui se prétendent chrétiens. Et d'ailleurs, c'est Paul qui nous avertit dans la deuxième lettre à l'église de Corinthe, au chapitre 5. Regarde plus à Christ selon la chair. On ne désire plus le voir se promener au milieu de nous. C'est fini, il a vécu son temps. La réalité de Christ est bien supérieure à ce qu'il était sur terre. Il est cette réalité infinie qui veut vivre en nous. Et quand je dis en nous, encore, éloignons nos petites images d'Épinal. Parce que nous, c'est ce que nous voyons nous. Alors on voit mal comment on comprime Christ dans notre cœur. C'est pas vrai un cœur, hein. On le comprime là-dedans. Voilà, Christ est en moi. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ce que nous voyons, nous, ça ne dure pas, c'est pas notre réalité. Ça aussi, ce n'est qu'un nuage. Ce que nous voyons de Christ par la foi, ça, c'est la réalité. Et en même temps, en voyant Christ par la foi, puisqu'il vit en nous, c'est notre réalité que nous voyons par la foi. La vue par la foi, c'est pas la vue selon la chair. C'est cette ferme assurance, relisée sans cesse, Hébreux 1. Quelque chose que je ne peux pas construire. Je voudrais faire l'effort ce matin de faire grandir ma foi, suivant ce que le frère dit du haut de l'estrade, je n'y arriverai pas, gloire à Dieu. Sinon, si j'y arrivais, la chair et le sang pourraient se glorifier. Or, elles n'ont aucune part au royaume de Dieu. Donc, c'est peine perdue. Je ne peux qu'attendre, dire merci Seigneur, parce que tu veux faire grandir ma foi. Chef et consommateur de la foi. Chef, le mot grec veut dire auteur, c'est-à-dire celui par qui le commencement arrive. Le voilà alpha. Il est l'alpha. Et le consommateur, en grec, c'est le finisseur, celui en qui tout aboutit. Ben, c'est oméga. On l'a encore, alpha oméga, ici. Voilà le Christ sur lequel notre foi se centre. Elle ne se centre pas sur nos idées de Christ. Elle ne se centre pas sur notre vécu de Christ. Elle ne se centre pas sur nos expériences, ce que nous avons ressenti, sur les bénédictions que nous avons reçues. Tout ça, c'est réel, dans le sens de ce que j'ai perçu. Car si je peux parler de miracle, c'est parce que je l'ai vu. Si je peux parler de sentir, c'est parce que je suis chair et sang. Ma foi ne peut pas centrer sur quelque chose qui, sur un terrain qui disparaît et qui finit dans la tombe. Mais ma vue de Christ, elle a la dimension de Christ. Elle sort de toutes mes compréhensions, de tout mon vécu. Et quand cela se passe, à ce moment-là, le vécu peut être le recto verso de la vie. Il peut être le vécu des bénédictions, comme les vécus des épreuves, en toutes choses, J'ai ma foi centrée en lui. Ce n'est pas la moindre épreuve, ni la pire des épreuves, qui me feront bouger d'un millimètre notre foi. Ça, ça convainc le monde de péché, de justice, de jugement. Parce que par cette foi est canalisé enfin l'esprit. Le monde vous regarde. Dans cette région-ci, ils savent qu'il y a une convention, ne serait-ce qu'au Chambon. Et certains se disent, pof, encore une de ces réunions d'illuminés, de gens renfermés sur eux-mêmes, de sectes. Si les gens nous traitent de sectes, souvent nous leur donnons des bâtons pour nous taper dessus. Notre vécu, souvent, de la foi, est un vécu de secte. Tout est centré sur voir des choses se produire. Nous avons peur du monde extérieur. Nous l'invitons, le monde, 2h30 ou 3h par semaine, à la réunion dimanche après-midi à l'évangélisation. Voilà où nous invitons le monde, et encore, on aimerait qu'il ne soit pas trop. Surtout par débat, en plus. Qu'il ne pose pas de questions. Voilà ce qu'on a à vous apporter, et vous partez, vous taisez, hein, ou vous convertissez. Après, il y a le travail. Ah oui, mais le travail, là, faut être très prudent. On peut se moquer de moi, vous comprenez? Ou alors, on passe une phase supérieure, on dit faut absolument que je leur dise ce que je crois. Voilà. Les Anglais appellent ça Bible bashing. Prendre la Bible et taper sur la tête des gens. On veut absolument faire savoir qu'on est croyant. Mais on est pris pour des cinglés, et ils n'ont pas tort. C'est pas ça la foi. Ça encore, c'est la chair et le sang qui ont le désir de se manifester au niveau d'un témoignage. Oh, cette chair et ce sang. Heureusement que Christ l'a crucifié. Quel poison. Et pourtant, c'est lui qui l'a créé. Mais regardez dans quel état le premier Adam conduit. Le premier Adam, celui qui apparaît sur terre, n'est pas une proposition viable. Ça ne tient pas. C'est pour ça que Dieu, dans son dessein, avait prévu l'avènement de l'homme, Christ. Il avait prévu que l'homme devait se transformer en deuxième Adam. Il conserve tout ce qui est chair et sang en lui, mais cette fois-ci, cette puissance qui nous dirigeait est dominée. La chair et le sang se trouvent neutralisées. Oh, ils ne sont pas détruits. Un chrétien, ce n'est pas celui qui se suicide. Elle est là, la chair et le sang, mais elle est neutralisée, car nous vivons une autre réalité, dont le seul tuyau, si vous voulez, canal de connexion, est la foi. Je ne peux pas entrer dans la réalité des choses qui est invisible, alors que les choses visibles sont passagères et disparaissent. Je ne peux pas entrer dans la réalité des choses autrement que par la foi. C'est-à-dire une ferme conviction envers et contre tout. Mais ma foi n'est vivante que s'il est centré, fermement centré sur la personne de Christ. Je ne peux pas le faire, lui peut le faire. À partir du moment où il vient habiter en moi, il devient le commencement des choses et il sera l'aboutissement de toutes choses en ce qui me concerne. C'est écrit dans la parole. Mais si je le maintiens à côté, si je veux marcher avec lui, eh bien je n'aurai qu'une seule porte de sortie, c'est de converser avec lui. Et pour converser, on ne converse pas avec quelque chose d'invisible, il faudra que je me l'imagine. Alors j'irai jusqu'à lire la Bible pour mieux m'imaginer. J'essaierai de m'imaginer moi, étant sur terre avec lui et faisant comme lui lorsqu'il était sur terre. Et je ferai des efforts, et je me planterai, et je ferai des bêtises. Il y aura peut-être des plus intelligents qui arriveront mieux, mais ce sera du haut théâtre ou du bas théâtre. Parce que Dieu ne nous a pas fait pour cela. Marcher avec nous, c'est un point de départ. Mais son plan suprême, c'est de marcher en nous et nous en lui. Ça, c'est la réalité. Christ en nous. Ah, dans ces conditions, notre foi devient réelle. Et alors, l'épreuve peut venir. À ce moment-là, nous pouvons répondre à la question, pas « Pourquoi l'épreuve ?» Hein? C'est bien la première question qu'on se pose. « Seigneur, pourquoi encore ?» Comme si, ayant la réponse à cette question, ça nous ferait victorieux de l'épreuve, mais jamais de la vie. On ne serait pas plus avancé de connaître la réponse du « Pourquoi en épreuve ?» Pour commencer, on n'y comprendrait rien. Parce que le « Pourquoi ?» qu'on verra un jour. On verra le pourquoi de toutes nos épreuves là-haut, parce qu'on le verra face à face. Mais il va chercher ses racines tellement loin, pas seulement dans notre présent, pas seulement dans notre passé, mais dans l'origine de l'univers. Dans tout ce qui s'est passé, qui n'est jamais arrivé à notre connaissance, on serait noyé. Heureusement que le Seigneur ne répond jamais au pourquoi de l'épreuve. Par contre, il fait beaucoup mieux. Il montre sans cesse la croix. Il montre là où s'est produite la suprême épreuve. Lorsque celui qui nous a tant aimés et qui veut vivre en nous s'est identifié à nous, a pris notre condition, non pas pour être un autre être humain et que nous regardons mourir pour nous, mais qui a pris notre condition pour que nous mourions avec lui. En d'autres termes, à Golgotha, nous y étions tous. Il nous avait déjà brisés. Et vivre dans la chair et le sang qui se veut spirituel, c'est à la limite continuer de cracher sur la croix avec tous ceux qui l'avaient fait il y a un siècle. C'est se dire, la croix, moi je veux bien, ça enlève mes péchés, mais moi je veux vivre ma petite vie spirituelle, je veux la mettre au service du Seigneur, je veux faire quelque chose pour lui. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Il veut travailler pour sa gloire au travers de nous et en nous. Voilà son plan. Et pour que cela se puisse saisir par nous, il faut la foi. Il faut entrer dans cette foi. Nous y entrerons, je suis persuadé, à la suite de cette convention ou même pendant. Pendant l'atelier aussi, les ateliers, nous verrons dans des détails pratiques. Mais que le Seigneur nous donne ce matin déjà de faire le point, pas intellectuellement, pas en faisant vite un examen, mais en laissant l'Esprit de Dieu nous éclairer. Esprit de Dieu, c'est lumière. Éclairer ces moindres tiroirs secrets de notre vie, pour montrer à quel point nous nous sommes enracinés dans des petites convictions personnelles, une petite religion personnelle, une petite idée de Jésus, etc. Esprit de Dieu, éclaire-nous ce matin, dans le plus profond de mon cœur. Et alors que nous avons partagé ce pain et bu de ce vin, nous avons signifié que nous avons été crucifiés avec lui. Nous rappelons la mort, c'est-à-dire la nôtre. Sommes-nous prêts à nous la rappeler ce matin? Sommes-nous prêts à ce que l'Esprit de Dieu nous montre ce qui n'est pas encore brisé en nous et qui fait obstacle à la vraie foi et qui ne nous donne qu'un ersatz de foi, une imitation qui est un obstacle phénoménal qui nous maintient dans l'illusion où nous sommes des croyants et qui fait que le monde se moque de nous? Comment se fait-il que nous avons tellement peur de manifester notre foi dans le monde? Parce que nous partons avec des préconditions, des idées qui sont propres à la chair et au sang. C'est-à-dire, je veux faire comme si on développe une stratégie, une tactique, etc. Mais laissons-nous conduire par le Seigneur au niveau d'une foi qui capte ce que le Seigneur veut que nous fassions. Sans cette foi, on ne peut pas capter. Et la chair immédiatement prend la place et nous dit, voilà, voilà ce que le Seigneur dit, voilà ce que dit la chair. Et alors là, nous sommes partis pour des dérapages terribles. Mais le jour où le souffle nouveau va passer, préparé par un éveil, préparé, je dis bien, par le réveil de la foi dans le peuple de Dieu, car Dieu, avant un grand souffle, remet toujours sa maison en ordre. De Pierre 2,14. Il remet sa maison en ordre. Non, c'est plutôt 2 Pierre 3,17. Lisons-le. Attendez. Bon, vous oubliez, je vous le rappellerai cet après-midi à l'atelier, c'est parce que j'ai en mémoire la traduction anglaise et ne ressort pas du tout ainsi dans la Bible française. Je passe mon temps à lire la Bible anglaise, qui est souvent très près du texte anglais, du texte grec. Je vous le rappellerai ce soir, que Dieu a pour dessein, avant que le souffle se déclenche, de mettre sa maison en ordre. C'est toujours ainsi. Et cette mise en ordre, c'est notre foi qui revient enfin à la vraie dimension. Que le Seigneur nous donne ce matin, de nous laisser examiner par cette lumière quelquefois intenable de l'Esprit qui est parole de Dieu. Et il nous donnera de voir ce qui n'est pas encore soumis. Cet après-midi, nous verrons une question que j'ai délibérément laissée de côté parce qu'on n'a pas de temps. Comment vient la foi? Ce sera le texte, je vous le donne dès maintenant. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous le verrons ce soir. Mais pour nous qui avons vécu un commencement de foi, laissons-nous pénétrer par l'Esprit de Dieu ce matin, au niveau de la réalité de notre brisement, si toutefois il y en a un. Et Dieu nous saura en aide et ravivra notre foi pour sa gloire et sa gloire seule. Amen. Nous allons prier. Seigneur, ta parole nous interpelle ce matin. Seigneur, tu nous as précédés dans un combat où même ta foi en ton Père a été secoué. Et même dans le jardin, à un moment donné, tu as demandé à ce que la coupe soit retirée. Et d'un seul coup, Seigneur, tu as montré ta vraie dimension. Tu as dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ce que nous voulons dire ce matin, Seigneur. Au niveau de ce que nous vivons, tant dans la vie quotidienne qu'au niveau de cette convention, nous voulons, Seigneur, nous ouvrir, nous laisser ouvrir par toi, par cette épée de l'esprit qui est ta parole. Seigneur, nous voulons entrer dans ce que tu as préparé pour nous avant même que nous fussions en existence. Nous voulons entrer dans cette réalité qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ou ressentir. Seigneur, nous savons que tu nous as fait pour cela et nous croyons de tout notre cœur que ce matin encore, non seulement tu veux nous visiter, mais tu veux nous remettre sur pied afin que nous ayons une vie de ressuscité en toi. Amen, Seigneur. Amen.